Salut tout le monde et bienvenue à Angle Mort. Aujourd'hui, un sujet très personnel. C'est une question qu'on a posée. Moi, chaque mercredi soir, je suis sur Twitch, une plateforme qui est un peu comme YouTube, avec deux humoristes, deux gars de Québec comme moi, qui sont Faf et Jean-François Otis. On s'est rencontrés quand j'animais une soirée à la Taverne Grande Allée chaque mois, qui à la fin, avant que tout ferme, ça marchait du feu du diable. Quelle belle soirée. Bref, mon but, c'est pas de parler de la soirée comme telle, malgré qu'il y avait plein d'affaires à dire, mais donc, ces deux dudes que j'ai rencontrés là, puis avec qui on s'est super bien entendu en partant, puis ils ont des chaînes Twitch, comme moi j'aurai éventuellement, ben, que j'ai déjà, puis que je vais starter dans pas long, sous forme de ligne ouverte, si on veut. Et puis, les gars, on s'amène chacun un sujet, si tu veux, là, c'est le mercredi à 19h30, et puis on jase, puis les gens nous suivent. C'est bien le fun. Et un des sujets que Jean-François avait amené, c'était quel genre d'ado vous étiez. Puis j'adore ça parce que j'ai lu de quoi récemment qui disait que il y a une théorie dans le monde de l'enseignement, notamment, qui dit que la seule vraie période dans la vie où on apprend quelque chose, c'est l'adolescence. Donc, c'est à partir de 12, 13 ans jusqu'à 18, 20, gros max. Puis qu'après ça, on est programmé. C'est-à-dire que les chances qu'on change fondamentalement sont assez minces. Et là, le débat est intéressant là-dessus parce qu'il y en a qui prétendent oui, non, peut-être. Puis on se plaît toujours à dire « Ah non, moi, je suis très flexible. » Puis quand on a des belles vertus, des belles qualités, on dit qu'on les a depuis qu'on est né. Puis quand on a des défauts, on dit qu'on est éminemment capable de s'en débarrasser. C'est un classique. C'est peut-être vrai aussi, peu importe. Mais je trouve ça intéressant. Puis je voulais juste jaser de ça aujourd'hui, c'est-à-dire interpeller tous et chacun sur voir à quel point vous étiez similaire ado qu'aujourd'hui. Puis moi, je trouve qu'il y a des indices qui militent énormément envers la théorie qu'on se fige à cet âge-là puis qu'on ne change pas. Puis je vais vous raconter, moi, la perception que j'avais de mon adolescence. C'est-à-dire que je vais regarder là un peu qui j'étais au secondaire jusqu'au cégep, là, déjà, où on tombe adulte. Puis à quel âge est-on adulte? Là, tu sais, 18 ans, c'est légal, ça. Mais dans la vraie vie, est-ce qu'on est adulte avant ça? Puis quelle est la définition d'adulte? C'est que là, écoute, on pourrait en parler là, pendant des heures. Mais le sujet m'a beaucoup allumé parce que je trouve ça le fun un peu de retourner en arrière. Puis quand quelqu'un se raconte, donc quand quelqu'un dit « Ben moi, à l'école, j'étais de même », tu te rends compte qu'il y a deux affaires qui arrivent. Il y en a une qui est « Ah, ben les grandes lignes sont encore là ». Règle générale, c'est toujours ça. Puis l'autre, c'est que, effectivement, l'adolescence explique l'adulte. C'est-à-dire que les changements qu'on fait à l'adolescence deviennent la permanence de l'adulte. Mais c'est quand même là que les changements ont lieu. Je vous donne un exemple. Dans mon premier livre, moi, « Le code Boileau du vrai gars », j'explique que quand j'étais en secondaire 5 à Polyvalente de Charlebourg, toutes mes amies m'appelaient le confident de ces dames, imaginez. Parce qu'en chaque période, tu sais, parce que ça marche à coup de période, hein, c'est trois périodes matin, trois périodes l'après-midi, si je me souviens bien, 50 minutes chaque à peu près. Puis il y a tout le temps comme un 10 minutes entre chaque pour je ne sais quoi, bref, changer de classe. Puis on avait des gangs, moi j'étais avec une petite gang, puis on se ramassait à un endroit précis qui était, le souvenir que j'ai, c'était au troisième étage de la Polyvalente. J'adorerais retourner là, voir d'ailleurs, où est-ce que, si je reconnaîtrais les places où j'étais, tu sais. Puis effectivement, Chantal Germain, F. Daniel Veilleux, toutes les espèces de super babes du secondaire, avec qui j'étais des fois en classe ou pas, venaient toutes me parler, tu sais, mais j'étais le confident de ces dames. Mais l'affaire, c'est que j'étais juste le confident de ces dames. Parce que souvent, les filles venaient me parler, puis ils venaient me casser du sucre sur le dos de Daniel Bernier. Puis Daniel Bernier, en tout cas, c'est un ça. Et qui surprenait coucher dans la chambre à Daniel Bernier quand Daniel Bernier faisait des parties chez lui? À Charlebourg, ben chez son père, ben les filles qui s'en plaignaient. T'sais, ça fait que ce jour-là, tu fais comme « Ah, ça, c'est un de mes grands gags dans mes numéros de stand-up. C'est un de mes préférés, celui que je reçois tout le temps de grosses claques. C'est que je raconte qu'à cet âge-là, j'ai compris une énorme leçon. C'est que j'ai compris qu'il faut arrêter d'écouter les problèmes des filles puis qu'on devienne le problème des filles. Parce qu'effectivement, L'ironie, c'est que les filles se plaignent que dans leur vie, surtout à cet âge-là, les gars veulent juste coucher avec eux autres. Mais l'effet inverse, c'est que nous autres, on se plaint que les filles veulent juste être notre amie. Puis c'est un combat qui s'enclenche à l'adolescence. Honnêtement, ces leçons-là, on les a toutes les filles. Évidemment, plus la fille est hot, plus elle est sollicitée. Mais il reste que toutes les filles vivent ça, cette espèce de « mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut, c'est pas clair ». Puis là, ben, ils réagissent en conséquence, en se méfiant probablement à partir de ce jour-là d'à peu près tous les gars en se demandant « que veut-il ». Puis nous autres, c'est l'exact inverse, c'est-à-dire qu'on est souvent, en tout cas, de ma génération, on est élevés par nos mères, tu sais, les pères travaillaient, les mères étaient à la maison. Donc, élevés par une femme, puis... C'est comme, moi, je me souviens, j'étais le plus fin, le plus gentil, le plus dévoué possible, jusqu'à temps que je me rends compte que c'était pas une clé de succès. Là. C'est-à-dire que oui, il me trouvait fin, mais encore. T'sais. C'est que ce constat-là, c'est drôle, on l'oublie en vieillissant, mais la réalité, c'est qu'on passe tout à travers ça. Fait que c'est très ironique de voir qu'on cause chez l'autre sexe la raison qu'on se plaint quand on est adulte. C'est-à-dire que les filles vont se plaindre, ah, les gars, veux-tu se coucher avec moi? Puis les hommes vont dire, ça se peut pas. Comment ça se fait que je suis tout le temps juste l'ami d'un puis de l'autre, tu sais? Ça fait que c'est spécial de voir qu'on est la cause du changement. C'est comme on se nuit l'un l'autre quand on est ado pour finalement devenir un peu sur nos gardes le restant de nos jours ou, ce qui est moins vrai, bien entendu, le jour où tu te matches, tu sais, mais il y a combien de couples? Moi, j'ai dit souvent ça. Moi, je trouve ça beaucoup plus dommageable une première date qui ne se transfère pas en deuxième date qu'un couple qui se sépare après 10 ans. À moins qu'il y ait des enfants. S'il y a des enfants, c'est sûr que c'est toujours un peu lourd. Mais un couple qui n'a pas d'enfants, qui se sépare après 10 ans, ça me fait zéro pleurer. Alors, ironiquement, la plupart des filles, plus c'est long, plus ils vont trouver que c'est un drame absolu. Moi, je dis c'est l'inverse. Parce que si après 10 ans, tu te sépares, tu as d'excellentes raisons de te séparer. Ça se peut pas qu'après 10 ans, ça se peut pas. Évidemment, tout se peut, mais c'est très rare que quelqu'un, après 10 ans, 20 ans en couple, se lève un matin en disant « Ah, là, je suis tanné, coup de tête. » Non. Je veux dire, ça peut être une mauvaise décision pareille, mais manifestement, elle est réfléchie. Or, une première date, ça peut virer en aucune date suivante, juste parce que madame trouve que le gars, il a pas fait ci, puis finalement, le gars, il arrive là, puis ah, c'était pas comme ses photos, puis telle affaire. La chance au courant n'existe pas dans le dating. Tu sais, c'est rare. C'est rare. Ça fait que tout ça part de l'adolescence. Fait que dans un premier temps, il y a déjà ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que moi, le premier, je me souviens que je le raconte dans mon premier livre, qu'entre secondaire 5 et cégep, j'avais changé de look, j'avais changé d'attitude. Je m'étais dit, là, quand j'arrive au cégep, je suis plus le gars là, que toutes les filles vont se précipiter dessus pour me conter leurs problèmes. Zéro, ça me tente plus. Puis effectivement, je l'ai appliqué, puis je me souviens de la dynamique qui avait complètement changé. Et puis, j'ai changé de club ce jour-là, puis je me suis jamais plaint d'être juste l'ami des filles. Alors, évidemment, c'est pas parce que tu décides de dire, bon, ben là, moi, je suis un gars, je vais creuser des filles, tu sais, puis que tu pèses sur un bouton, puis ça marche. C'est un défi de tous les instants, ça s'appelle les mœurs. Il n'y a aucune règle précise, il y a des tendances lourdes. C'est ce que je faisais quand je suis arrivé à la TV, je parlais de crew, je disais, hey, les gars, si vous faites ça, ça a plus de chances de marcher, mais c'est pas de la technique, là. Tu sais, c'est pas comme monter un immeuble ou programmer une application iPhone. Ça marche pour certains, moins pour d'autres, mais c'est faux de dire, ah ben l'important, il faut rester naturel, puis arrêter, là, rester naturel. Ouais, les témoins de Jéhovah, ils restent naturels quand ils cognent à une porte, mais ça donne que la porte, elle ouvre pas souvent, tu sais. Fait qu'ils sont obligés, comme un vendeur, de dire, bon, ben je vais modifier ça, puis telle affaire. Bref. Fait que moi, j'avais ce bout-là, quand j'étais ado, où est-ce que je, comme la plupart des gars de mon âge et de ma génération, on apprenait à la dure que c'était pas une façon de fonctionner, d'être tout le temps le plus fin, le plus gentil. Il fallait à quelque part savoir dire non, tu sais. Bon, bref. Puis l'autre genre d'ado que j'étais, c'est que j'étais déjà quelqu'un qui se plaisait à être l'outsider de toutes les gangs. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à sortir dans les discothèques, c'est à rue Saint-Jean notamment, à Québec, le vendredi 13, pour ceux qui sont de Québec, puis qui ont mon âge, en face du bistrot, l'actuel bistrot, là, dans le vieux. L'autre côté, tu montais un escalier, puis c'était le vendredi 13. Ça marchait au bout. Puis on était capable de slider là quand on avait 17 ans, 18, tu sais. Et moi, je prenais l'autobus, là, si je me souviens bien, c'était la 39, qui passait pas loin de chez moi à Charlebourg, puis là, j'arrivais en ville. Et arrivé en ville, je sortais rejoindre Christian Fauché, puis Jean-Pierre Delage, qui eux autres étaient des chums de la polyvalente, puis qui sortait là, puis je savais qu'il était là. Puis après, je transférais, j'allais faire un tour au bistrot parce que des fois, le RAV était là. Je me promenais. Je me souviens pas de toutes là, les bars de discothèque dans ce temps-là, mais je me promenais. Puis j'aurais pu appeler ces gars-là, puis ils seraient venus me chercher toutes, mais je préférais partir en autobus puis revenir en autobus parce que j'étais content d'arriver puis d'aller voir un, puis après ça, dire « OK, je vais voir l'autre, telle affaire. » J'étais déjà dans une espèce de dynamique où est-ce que, comme aujourd'hui, j'étais, c'est ça, j'appelais ça l'outsider de toutes les gangs. Il y avait la gang de Charlebourg-Ouest, Claude Pagé, Jean Leclerc, eux autres, ils se tenaient au bout ensemble, puis c'était mes grands chums à l'école. Puis, tu sais, genre que personne ne m'invitait particulièrement à dire « Hey, on va chez Stéphane Leclerc, mettons. » Parce qu'il y avait Jean et Stéphane Leclerc, là, je me dédouble pas, il y avait vraiment deux gars, deux Leclerc. Personne ne m'invitait pendant la semaine, mais tu sais, tu jases, tu l'entends. Puis, je savais que partout où j'allais, j'étais le bienvenu, mais personne ne m'appelait ou me signifiait littéralement qu'on allait aller là parce que j'étais pas comme dans la gang. Ça fait que moi, j'en reviens pas à quel point, tu vois, là, j'avais... Là, à l'âge, c'est secondaire 3, là, je vous dis, j'ai 15 ans à ce moment-là. J'ai 15 ans, là. C'est le début, là. Puis déjà, je suis dans cette espèce de façon de faire, là, puis de façon d'être qui est que, comme aujourd'hui, plein de chapeaux, des chapeaux contradictoires, des brands durs à mettre dans une boîte. Moi, quand je fais une entrevue, là, c'est le même depuis le jour 1, OK? Depuis 20 ans, quand je fais une entrevue, la question, c'est tout le temps, on te présente comment? Ils ne savent pas comment me présenter. Ça fait qu'en joke, je leur dis souvent, tu écriras en dessous de mon nom, genre de Marc Boilard, tu sais. Parce que je suis un animateur, je suis un chroniqueur, je suis un expert en com, je suis un spécialiste du dating, est-ce que je suis un auteur, je suis un conférencier, est-ce que je suis un gars qui est un entrepreneur web? Bien, je suis tout ça. Je suis tout ça, comme tout le monde est plein d'affaires, sauf que, règle générale, les gens sont plus spécialisés, puis moi, j'ai choisi de pas choisir. Ça fait que oui, je sais que c'est flou. Oui, je sais qu'il y a du monde qui me connaissent pour X puis qui sont pas au courant d'Y puis c'est plus dur à vendre. Je suis tout au courant, mais ça, c'est moi. C'est tout. C'est assumé, c'est clair. Ça vient pas juste avec des qualités. Ça vient aussi avec une façon de se vendre puis d'être reconnu plus difficile. Mais c'est de même. Ben, j'étais déjà de même. C'est ça que je veux dire. C'est ça qui est hot. C'est que on se fait rattraper par nous-mêmes. J'étais déjà comme ça, j'étais quelqu'un qui essayait de, tu sais, j'étais un peu partout, puis surtout, fallait pas m'attacher, fallait pas essayer, tu sais, de dire, mais si on part ensemble en auto, il va falloir que je revienne à telle heure. Non, je préfère revenir en autobus tranquille, puis je pourrais pas revenir tard, mais je m'en fous. Ça m'a tout le temps défini, tu sais. Ça fait que je trouve ça fascinant de voir que quand on est ado, c'est ça, cette caractéristique-là qu'on garde, qui est la réaction à quelque chose, comme l'exemple que je vous donnais avec les filles, ou qui est ce qu'on a intrinsèquement. Tu sais, au primaire, j'avais un prof, en cinquième et sixième année, j'avais un prof qui s'appelait Michel Pelletan, qui était un Français, très bon professeur. Puis lui, chaque vendredi après-midi, on avait, au lieu d'avoir trois périodes, on avait une période de, mettons, français, suivie de deux périodes collées, les deux dernières, puis là, c'était expression. Puis tout le monde faisait des sketchs, on faisait plein d'affaires devant la classe et tout. Puis c'est même moi qui était en charge de ça, il m'avait mis en charge de trouver qui allait être là la semaine prochaine, puis tout organiser ça. Puis tu sais, j'étais déjà là-dedans. Puis je faisais des films en secondaire 3 avec Michel Gagné. Puis quand je suis rentré en droit, je me souviens, ça c'est une autre affaire, je me souviens que, tu sais, que moi je suis rentré en droit, c'était pas pour pratiquer le droit, c'était pas pour être avocat à part avoir le titre, là. Puis je suis content, là. Mais j'ai toujours été clair. Moi, non, moi, je ferais pas ça dans la vie. Je vais juste chercher le titre. Ça fait que quand, pendant l'été, j'allais à des centres d'emploi, puis que je disais, est-ce que vous avez des jobs en communication? Le monde me disait, non, on n'a pas de job dans ton domaine, là. Toi, t'étudies en droit. Je disais, non, moi, j'étudie en droit, mais moi, je veux travailler en communication. Avez-vous des affaires qui ont rapport avec travailler en com, travailler dans une station de radio, travailler dans une compagnie? Voulez-vous que j'écrive des affaires? T'sais, moi, je fais... Ça fait que déjà là, je me souviens de cette scène-là. Déjà là, il y avait un problème. C'est-à-dire que c'est comme, ben oui, mais... T'étudies, mais moi, j'ai dit... La raison pour laquelle j'ai étudié en droit, c'est juste que j'ai fait... Qu'est-ce que ça me donne d'étudier en communication? C'est que ça va me donner quoi de plus? T'as pas besoin d'étudier en communication pour travailler là-dedans, ça n'a pas rapport. Ça peut peut-être aider, puis encore. Ça fait que là, j'ai fait, ben je vais aller me chercher un titre qui flash. Puis aujourd'hui, ben je suis avocat, gagnons ça. Ben oui. Puis, je fais-tu exactement ce que je voulais? Oui. En quoi être avocat ou avoir une maîtrise en communication? Je change quoi? Sauf que je préfère avoir un titre qui est connu puis qui traduit beaucoup plus que un bac en com, qui est franchement... Tu sais, j'ai fait un DEC en com à Limoilou. Je dis toujours, j'ai fait un DEC en cafétéria, là. Parce que sérieux... Ça fait que c'est ça. Donc, je trouve ça très, très amusant de voir. Puis en même temps, c'est que ça montre à quel point c'est une période importante parce qu'il y a des figures qui nous influencent, qui restent... Si vous êtes en contact avec des ados, là, prenez pas à la légère votre rôle. Puis je dis en contact, hein, je dis pas nécessairement les parents d'eux, mais c'est qu'il y a quelque chose de très stimulant, là, d'être une figure adulte encourageante. Je reviens sur mon podcast de la semaine passée là, sur la dame Gorman là, qui a récité un poème à l'investiture de Joe Biden, tu sais, où je disais, ça me fâche tellement quand je vois des gens qui disent « Ah, oh, moi, mon prof disait que je ferais jamais ça », puis c'est comme vos gueules. C'est pas le temps à cet âge-là de décourager qui que ce soit, c'est le temps de les encourager, puis s'ils se plantent, ça fait quoi se planter à 20 ans? Revenez-en. Ça fait que c'est un peu tout ça. Bref, puis si j'ai à qualifier mon adolescence, elle a été heureuse, malheureuse. Elle a été heureuse, malheureuse. Je viens d'une famille où tout était top, top. Là. Ça, là-dessus, j'ai rien à dire. Au contraire, quelle chance. Mais mon secondaire 1, c'était pas heureux, tu sais. C'était comme, j'étais intimidé, mais on m'intimidait pas. Moi, je pense que une autre affaire qui m'a défini, c'est que j'ai jamais voulu entrer de plein pied dans l'âge adulte. Il y a quelque chose dans l'âge adulte qui n'est pas de l'ordre des responsabilités, parce que ça, j'ai foncé dans tout, puis j'ai tout le temps tout assumé. Ça fait que, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est comme s'il y a quelque chose d'ennuyant, je pense, que j'ai toujours trouvé dans le stéréotype, parce qu'on fait bien l'âge adulte qu'on veut. Il y a quelque chose qui m'a toujours ennuyé, je pense, parce que je me souviens qu'en secondaire 1, je continuais à être très en contact avec mes amis qui étaient encore en sixième année. Je montais des spectacles pour eux autres, je faisais des mises en scène de shows de Kiss. Tu sais, j'ai tout le temps... Puis quand je suis arrivé au barreau, j'étais très déçu de voir que tout à coup, tout le monde disparaissait. C'est comme l'année d'avant, tout le monde est à sa grande allée, puis tout le monde est dans un bar. Puis l'année d'après, c'est le barreau, puis là, tout à coup, tout le monde, c'est comme si là, ah non, non, on est sérieux maintenant. De quoi on est sérieux? T'es sérieux quand il faut être sérieux? C'est ça? Quand j'étais gérant d'artiste, personne s'est surpris que je suis passé de derrière à devant la caméra, ce qui est très rare, là. Il y a moi puis José Lito, là. José Lito, c'est un ancien gérant aussi. On est comme deux, là, ou trois, mettons, je sais pas. Mais bref, c'est très rare. Mais personne n'était surpris parce que moi, je n'étais pas le petit gérant avec sa valise sérieux. J'étais le gars qui faisait rire tous les directeurs de programme avec qui mes clients travaillaient. C'est ça. Tu sais, cette idée-là de porter plusieurs chapeaux, tu as ça jeune parce que je pense que ça, c'est une caractéristique forte. De la même façon que quelqu'un qui est très, très assidu, très porté sur le détail, très minutieux, d'après moi, il y a ça très jeune. T'sais. Fait qu'au final, tout ce que je veux dire, c'est que je vous laisse là-dessus. Si vous êtes en contact avec des jeunes, dites-vous que vous pouvez faire une différence sans trop vous en rendre compte entre quelqu'un qui va être courageux, qui va triper, qui va poursuivre toutes sortes de projets, puis un autre qui va choquer toute sa vie. Là. Bon, j'en ai parlé, là, les parents qui brainwashent leurs enfants à dire que ah, l'important dans la vie, c'est d'avoir un fonds de pension. Moi, le cœur me lève. Ça fait que c'est ça. Donc, ben écoutez, à demain. Ciao, bye.